France Inter.
Bonjour à tous. C'est un procès qui a marqué les esprits et l'ensemble de la société, celui des viols de Mazan. Dominique Pellicot, condamné à 20 ans de prison pour avoir violé et fait violer sa femme Gisèle par des inconnus pendant une dizaine d'années. Mais il n'en a pas fini avec la justice. Cette semaine, Dominique Pellicot a de nouveau été entendu par une juge d'instruction sur deux affaires non élucidées, dont un meurtre. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Alors à chaque fois, il s'agit de jeunes femmes agents immobiliers. Vous avez enquêté sur les coulisses de ces investigations et retrouvé des témoins qui n'avaient jusqu'ici jamais parlé.
Secret d'info, Benoît Colomba sur France Inter.
Ce matin, Gisèle Pellicot entre au tribunal pour la confrontation de sa vie face à son ex-mari, Dominique Pellicot.
Je reconnais les faits dans leur totalité. Je suis un violeur comme ceux dans cette salle. Gisèle ne méritait pas ça.
Voilà, extrait d'un reportage diffusé en septembre dernier sur TF1 lors du procès des viols de Mazan, un procès hors norme qui a duré 4 mois avec 51 prévenus. Et si ce procès a finalement pu avoir lieu, Julie Pietri, il faut quand même le rappeler, c'est grâce aux vigiles d'un supermarché.
Oui, parce que le 12 septembre 2020, Dominique Pellicot entre dans un centre commercial, le Leclerc de Carpentras. Son téléphone dissimulé dans une sacoche, il filme sous les jupes de plusieurs femmes, et c'est à ce moment-là qu'un vigile le repère. Écoutez la scène enregistrée par le téléphone de Dominique Pellicot et dévoilée par Paris Match.
Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe.
Non.
Vous portez plainte. Il est en train de filmer sous votre robe, le téléphone, comme ça, à l'instant. Allez, police direct. Vous restez là, vous bougez pas.
Donc, le vigile appelle la police. Et la suite, c'est la fille de Dominique Pellicot, Caroline Darian, qui l'a raconté chez nos confrères de France Culture en septembre 2023.
Trois femmes vont aller porter plainte, et heureusement, il va être emmené au poste de police. Et ils vont s'apercevoir qu'il détient des images où il voit très vite une femme d'une soixantaine d'années inanimée en train de se faire violer par d'autres hommes.
Et cette femme, c'est donc sa mère, Gisèle Pellicot. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Oui, parce que quand Dominique Pellicot est arrêté, son ADN est prélevé et il est entré dans le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, pour vérifier en fait si son ADN a déjà été trouvé et enregistré dans d'autres affaires, sur d'autres scènes de crime. C'est une procédure que le docteur Olivier Pascal, expert en empreintes génétiques, connaît bien.
On va faire un prélèvement buccal, on racle l'intérieur de la bouche, on établit l'empreinte génétique, et ensuite, on va rentrer son ADN dans la base. Mais s'il y a un moment où ça matche, on va dire, voilà, il y a une correspondance. Ça permet de rapprocher éventuellement des dossiers qui, au départ, n'avaient pas de lien policier.
Et alors, dans le cas de Dominique Pellicot, est-ce que ça match, pour reprendre le terme de cet expert, est-ce que son ADN, il match avec d'autres affaires ?
Oui, avec la tentative de viol d'une jeune femme à la fin des années 90 et qui ne souhaite pas que son nom soit dévoilé. On va donc l'appeler Marion. À l'époque, Marion, donc, a 19 ans. Elle est agent immobilier débutante à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne. Le 11 mai 99, un homme entre dans l'agence. Il dit vouloir visiter un appartement. Tout de suite, ça semble urgent. Une fois entré dans le logement, il lui demande de mesurer la chambre. Marion s'accroupit et c'est à ce moment-là que l'homme lui serre la gorge avec son bras et la menace avec ce qu'elle identifie comme un cutter. Voilà ce qu'elle raconte aux enquêteurs le lendemain de son agression. Nous avons fait lire un extrait de son témoignage.
Il me menaçait avec son arme et m'a dit de ne pas crier, de ne pas paniquer et qu'il voulait juste de l'argent. Il m'a forcé à m'allonger sur le ventre. Il m'a pris mes bras et a réussi à les lier derrière mon dos avec une corde en nylon blanche.
Marion se débat, elle explique à la police que l'homme pose alors sur sa bouche un mouchoir imbibé d'un liquide qui sentait très fort. Elle pense à l'époque que c'est du white spirit, en fait c'est de l'éther.
Oui, il essaye de l'endormir.
Oui, et Marion a alors le réflexe de retenir sa respiration, explique son avocate Florence Rowe.
À un moment donné, elle réussira à délier ses poignets. Il enlève son pantalon, elle le voit enlever son pantalon, elle le voit aussi plier méticuleusement son pantalon et le poser un peu plus loin dans la pièce. Elle est capable de dire qu'il est très posé, qu'il ne s'énerve pas, qu'il est très calme et qu'il fait les choses en prenant son temps.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Marion se débat de toutes ses forces et elle finit par se réfugier dans une sorte de placard qui ferme à clé. Son agresseur lui demande d'ouvrir, elle refuse et elle reste là longtemps, près de 4 heures, et finit par être secourue par son patron qui s'inquiétait de ne pas la voir revenir.
Et cet agresseur, on va s'apercevoir que c'est Dominique Pellicot.
Oui, et on le sait parce que dans cet appartement, il y a du sang, notamment sur une chaussure de Marion, pas beaucoup, mais ça permet d'identifier un ADN masculin, celui de l'agresseur. Écoutez à nouveau l'avocate de Marion, Florence Rowe.
Bien sûr, pendant toutes ces années, on ne sait pas qui il est. On sait simplement que c'est un homme et on l'appelle ADN X masculin. Voilà. À partir de ce moment-là, Marion reçoit un coup de téléphone d'un inspecteur de la brigade criminelle parce qu'on a besoin de l'entendre, de l'auditionner. L'individu X masculin se nomme Dominique Pellicot.
Dominique Pellicot, qui a été agent immobilier, il connaît donc bien ce métier, les façons de travailler et la prise de rendez-vous.
Oui, donc il y a des éléments matériels qui semblent désigner Dominique Pellicot dans cette affaire. Et est-ce qu'il reconnaît les faits, lui, alors ?
Non. En octobre 2022, il est extrait de sa cellule au Baumettes, à Marseille, pour être interrogé par les policiers de la brigade criminelle. Une photo de Marion lui est présentée. Il assure d'abord qu'il ne la connaît pas. Quelques heures plus tard, il est réentendu par les enquêteurs. Écoutez cet échange que nous avons fait lire entre Dominique Pellicot et le policier qui l'interroge.
Monsieur Pellicot, maintenez-vous ne pas connaître dont nous vous avons présenté un cliché précédemment?
Je le maintiens, je ne la connais pas.
Monsieur Pellicot, je vous le demande à nouveau, vous ne l'avez jamais approché ou touché?
Jamais.
Concrètement, monsieur Pellicot, nous vous informons que votre profil génétique ou votre ADN a été retrouvé sur la scène de crime de la tentative de viol avec arme s'étant produite le 11 mai 1999 sur la personne de madame. Qu'avez-vous à répondre sur ce sujet?
Je ne me souviens absolument pas de ça.
Il est encore temps de vous rappeler, monsieur Pellicot.
Je ne me rappelle pas avoir eu une altercation avec quelqu'un.
Il ne s'agit pas d'une altercation, mais d'une tentative de viol, monsieur Pellicot.
Oui, donc malgré la preuve par l'ADN, Dominique Pellicot continue de nier.
Oui, et c'est à ce moment-là que son avocate, maître Béatrice Zavaro, intervient.
Je demande au policier de m'accorder un entretien très court en lui disant « Monsieur Pellicot, s'il y a quelque chose, il faut le dire maintenant, il ne faut pas attendre. » Donc, il explique très rapidement au policier que, entre guillemets, par respect pour son avocat, il va dire effectivement la vérité. Donc, il explique « Oui, effectivement, c'est lui qui a cherché un appartement et qui a eu cette pulsion sur cette jeune femme. »
Donc il finit par avouer une pulsion, en revanche, il ne reconnaît pas la tentative de viol.
Non, même s'il ne conteste pas avoir eu sur lui un flacon d'éther et une cordelette pour agresser la jeune femme. Écoutez un autre extrait de son audition en garde à vue que nous avons fait lire.
Monsieur Pellicot, si l'on vous suit bien, vous vous promiez à Mitri Mori équipé d'un flacon d'éther et d'une cordelette. Quel était le but de la détention de cet équipement? Peut-on considérer que vous étiez en chasse?
Oui, tout à fait, puisque j'ai trouvé.
Vous avez évoqué une pulsion. À quel moment de la journée avez-vous ressenti cette pulsion ?
La pulsion s'est produite juste au moment où je l'ai aperçue.
À ce moment-là, étiez-vous déjà en possession d'éther et de cordelettes ?
Je pense que je les avais dans la voiture et pas sur moi. Je suis allé chercher, je pense, ce matériel dans la voiture.
Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il semble organiser son agression et Dominique Pellicot est ensuite confronté à Marion.
Oui, là, nous sommes en février 2023, dans le bureau de la juge d'instruction, Nathalie Turquet, du pôle Cold Case de Nanterre, spécialisée dans les affaires non élucidées. Dominique Pellicot, vous allez l'entendre, il donne des réponses très alambiquées et la juge cherche à comprendre.
Est-ce que vous reconnaissez qu'à un moment donné, vous avez eu l'intention de violer?
C'est possible, oui, vous avez raison, mais ça n'a pas été le cas.
Est-ce pour cela que vous lui avez retiré son pantalon et ses chaussures?
Vraisemblablement, oui.
Ouais, il est quand même très difficile à suivre et il reconnaît quoi, finalement, devant la juge?
D'avoir remonté le t-shirt de Marion. Pour la voir, il explique qu'il voulait en fait se masturber. Et quand la juge lui demande des précisions, voilà ce qu'il répond.
J'étais parti sur un viol visuel et non pas physique. Je conçois que ça a pu être traumatisant, bien sûr.
Ouais, un viol visuel. On rappelle quand même que Marion a dû s'échapper et qu'elle s'est finalement réfugiée dans un placard fermé à clé.
Oui, et les enquêteurs ont en fait l'impression que Dominique Pellicot cherche toujours, dès qu'il peut, à minimiser. C'est ce que nous a expliqué cette source proche du dossier qui nous a demandé de faire lire son témoignage.
Il y a des profils comme ça qui disent « bah, dites-moi ce que vous avez et puis je ferai ce que j'ai à vous dire ». On a visiblement affaire à ça. C'est un mur, il ne lâche que s'il y a des éléments matériels.
Et même quand il y a des éléments matériels, Dominique Pellicot tente de contester.
Oui, sur les coups reçus par la jeune femme par exemple, le rapport médical qui décrit les lésions de Marion relève des hématomes, des ecchymoses au front, à l'arcade sourcilière, compatibles, selon le médecin, avec des coups portés au visage. Et pourtant, lors de la confrontation entre Marion et Dominique Pellicot devant la juge, ce sont deux versions complètement différentes qui s'opposent. Nous en avons fait lire un extrait.
Elle essaye de se relever sur ses bras. J'essaye de la retenir par le plexus. Comme elle essayait de se relever, on s'est cogné la tête plusieurs fois.
Êtes-vous d'accord avec les déclarations qui viennent d'être faites ?
Non, on ne s'est pas du tout cogné la tête. Il y a eu une grande lutte. Il m'a donné plusieurs coups de poing.
Et ce comportement, il n'étonne pas vraiment un expert qui a approché justement Dominique Pellicot en détention.
Oui, cet homme, c'est le psychiatre Paul Bensussan. Il l'a expertisé en 2022 dans le cadre du procès des viols de Mazan.
Je suis face à un homme de 70 ans, en détention provisoire, avec une canne et une claudication en raison d'une arthrose de la hanche. On s'attendrait à ce que cet homme soit diminué. Mais il reste imposant, assez froid. Il dégage presque l'impression d'invulnérabilité. Un homme muré dans ses dénégations qui ne dira littéralement que ce qu'il a envie de dire ou ce qui est impossible à réfuter selon le dossier. Il ment sur de très nombreux aspects que j'ai énumérés dans mon rapport et ce sont des mensonges qui sont démontrés. Le premier des mensonges concerne son épouse puisqu'il dit avoir pris toutes les précautions pour la protéger, j'entends au niveau sanitaire, ce qui n'est absolument pas le cas.
Et donc, malgré ces dénégations, dans l'affaire de Marion, Dominique Pellicot a été mis en examen pour tentative de viol en octobre 2022.
Et ce qui est assez incroyable, Julie, c'est qu'il y a eu une grande perte de temps dans ce dossier, parce que Dominique Pellicot aurait pu être mis en cause bien plus tôt.
Oui, vous vous souvenez que Dominique Pellicot, il est surpris en train de filmer des femmes dans un supermarché en 2020. C'est ce qui déclenche tout. Mais en fait, il avait déjà été interpellé pour le même type de fait dès 2010, et son ADN avait déjà été prélevé et déjà ajouté au fichier FNAEG des empreintes génétiques.
Et à ce moment-là, est-ce que le lien est fait entre l'ADN de Dominique Pellicot et celui retrouvé dans la tentative de viol de Marion?
Oui, mais le problème, c'est qu'ensuite, il ne se passe rien. Ça n'a pas été traité, en fait. À l'époque, c'est le parquet de Meaux qui est en charge de la procédure. Que s'est-il passé? J'ai posé la question à Jean-Baptiste Bladier, l'actuel procureur de Meaux. Il m'a répondu par mail.
Il n'y a aucun moyen d'avoir la certitude que le parquet de Meaux a bien reçu le rapport du FNAEG. Notez bien que je n'affirme pas non plus que le parquet ne l'a pas reçu. La vérité étant que je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2010.
Ça paraît quand même complètement fou.
C'est un énorme raté, disent les avocates de Marion et de Dominique Pellicot. Et c'est vrai que la chronologie est assez vertigineuse. Les premiers viols prouvés de Dominique Pellicot sur son épouse remontent à 2011. Que se serait-il passé s'il avait été mis en cause dès 2010 pour la tentative de viol de Marion? Est-ce que Gisèle Pellicot aurait subi tous ces viols? La question reste posée.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Alors, on a vu que Dominique Pellicot niait avoir tenté de violer une femme, agent immobilier, en 1999, et ça malgré la présence d'éléments matériels. Mais il y a une autre affaire, Julie Pietri, dans laquelle Dominique Pellicot est également mis en examen.
Oui, et qui se déroule 8 ans avant l'agression de Marion. Une autre jeune femme, elle aussi agent immobilier, est retrouvée morte, cette fois dans l'appartement qu'elle faisait visiter à Paris. Elle s'appelait Sophie Narme, comme on peut l'entendre dans cet extrait du journal télévisé de France 3 du 7 décembre 1991.
Une jeune employée d'une agence immobilière violée et tuée en faisant visiter un appartement à Paris. La police recherche aujourd'hui le client qui lui avait donné rendez-vous par téléphone, Clément Vairenal.
Un petit deux pièces sur cour au sixième étage d'un immeuble proche des buts de Chaumont à Paris. C'est par le biais de cette petite annonce parue dans une revue immobilière que l'assassin a pris contact par téléphone avec Sophie Narme, 23 ans, employée dans cette agence de la rue Lauriston. L'homme qui a donné une fausse identité souhaite visiter l'appartement. Personne n'a rien vu ni rien entendu.
Personne n'a rien vu. Et qui était cette jeune femme, Sophie Narme ?
À l'époque, elle rentre des États-Unis où elle était jeune fille au pair. Elle commence juste à faire visiter des appartements. Et c'est son employeur qui découvre son corps dans la soirée, comme le raconte l'avocate de la famille de Sophie Narme, Florence Rowe.
Quand il met la clé dans la serrure, il est surpris que la porte ne soit pas verrouillée, la porte s'ouvre en réalité, comme si elle n'avait été que repoussée. Donc déjà, ça lui paraît bizarre. L'appartement est dans le noir, bien sûr, il est tard et on est en hiver. Il va chercher la lumière, il va à tâtons, il commence vraiment à s'inquiéter parce qu'il y a une très forte odeur de terre dans l'appartement. Au final, il va réussir à aller dans la deuxième pièce, à trouver la lumière. Et quand il est clair, là, il tombe sur la scène de crime et c'est une scène d'épouvante tellement c'est sauvage et violent.
Et là, on retrouve à nouveau la présence de l'éther.
Oui, et la jeune femme est allongée sur le ventre, sur la moquette. Le bas du corps est nu, les vêtements descendus. Elle a été violée et étranglée. Elle a aussi une plaie par arme blanche dans le dos.
Et ce qui intrigue la juge, Julie, ce sont des points communs assez troublants avec la tentative de viol contre Marion qu'on évoquait tout à l'heure.
Et la juge Nathalie Turquet du pôle Cold Case de Nanterre a résumé ces similitudes lors d'un interrogatoire de Dominique Pellicot. Et ce résumé a été lu lors du procès des viols de Mazan à Avignon. Jean-Philippe Degnaud du service police-justice de France Inter était présent.
Le suspect a insisté, par exemple, auprès des agences pour obtenir une visite le jour même. Il s'est présenté sous un faux nom. Les appartements qu'il a visités étaient tous les deux au dernier étage. Et ça, c'est important parce qu'il y a moins de voisinage quand on est au dernier étage, moins de risque d'être vu. Il y a bien entendu les agressions qui se font avec l'éther pour tenter d'endormir les victimes. Il y a cette arme blanche. Et puis, petit détail, seul un enquêteur peut avoir ce flair, c'est que dans les deux scènes de crime, les chaussures des victimes ont été posées, proprement, côte à côte, à côté du corps de la victime. Et ça, c'est un élément évidemment qui intéresse beaucoup les enquêteurs pour rapprocher deux scènes de crime.
Et j'ajoute que Dominique Pellicot, qui était agent immobilier en 1991, l'année du meurtre donc, a quitté le métier peu de temps après.
Bon, et Dominique Pellicot, qu'est-ce qu'il dit au sujet du meurtre de Sophie Narme ?
Il dément fermement. Par exemple, lors d'une expertise médicale demandée en 2022 dans le cadre des viols sur sa femme.
Pour le meurtre, ils ont dit « même moyen, main attachée, utilisation de l'éther ». Mais il y a eu les actes de barbarie dont je ne suis pas capable. Je suis tout à fait tranquille sur ce sujet, c'est pas moi, tout simplement. Ça me paraît inexplicable d'accuser sans preuve. Je ne suis pas fou, je n'avouerai jamais ce que je n'ai pas fait.
Mais il y a tellement de points communs avec la tentative de viol de Marion que Dominique Pellicot est aussi mis en examen pour le viol et le meurtre de Sophie Narme.
Bien, alors on va s'arrêter là pour l'instant, mais surtout, restez avec nous. Dominique Pellicot est-il également un meurtrier ? Dans un instant, on va entendre des acteurs clés de cette affaire et on va voir qu'il y a eu de nombreux dysfonctionnements.
You said don't hide, just walk in a straight line. Don't you apologize when you're right. You said straight spine, take one step at a time. Just keep on breathing and you'll be fine. So I took a breath in and I let myself shout. Felt the air on my skin and let my hair down. I don't really know if I'll come back to this town, but at least I'm here right now. With my heart between your hands in Phoenix, knew that I'd survive 'cause you made me believe it. When I'm under attack and my world feels like it's coming to an end, you say don't break, just don't break. So if you free fall, your breath in, you can let yourself shout. Feel the air on your skin and let your hair down. I don't really know if we'll come back to this town, but at least we're here right now. With your heart between my hands in Phoenix, knew that we'd survive, cause you made me believe it. When you're under attack and your world feels like it's coming to an end, I'll say don't break, just with my heart in your hands spilling over, and my head resting right on your shoulder. When I'm under attack and my world feels like it's coming to an end, you say don't break, just
Phoenix, le dernier titre de la jeune artiste londonienne Hope Tala, extrait de son nouvel album Hope Unwritten.
France Inter, Secret d'info. Benoît Colombat.
Et retour à notre enquête sur ces affaires criminelles où le nom de Dominique Pellicot est cité, notamment le viol et le meurtre de cette femme agent immobilier, Sophie Narme, à Paris dans les années 90. Dominique Pellicot a été mis en examen, mais on l'a dit, il dément être l'auteur du crime. Alors Julie Pietri, on va revenir plus précisément sur cette journée du 4 décembre 1991.
Oui, écoutez, Joëlle, elle aussi, est agent immobilier à Paris à cette époque-là et elle connaît bien l'agence de Sophie Narme parce que l'une de ses amies y travaille.
Un matin, elle m'appelle et elle me dit « Sophie est partie en rendez-vous, alors elle a dû être revenue et on ne la voit pas arriver, on s'inquiète un peu ». Et à la suite de ça, donc on se téléphone plusieurs fois dans la journée, parce que je la sens inquiète, je l'appelle, elle me rappelle, et je lui dis « Alors, t'as du nouveau ?» Et elle me répond « Oui, le pire ». C'est vraiment ces mots. Elle me dit « Oui, c'est le pire ». C'est inimaginable d'imaginer qu'on va faire une visite et qu'on risque sa vie, et puis d'imaginer dans quel état elle a été retrouvée. Enfin, ça paraît fou.
Et cette affaire, à l'époque, elle marque les esprits.
Oui, le patron de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, réclame, après la mort de Sophie Narme, une meilleure protection pour les agents. Il évoque même le port de bombes paralysantes. Et c'est d'ailleurs le premier réflexe de Joël.
C'est vrai que c'est la première chose que j'ai faite, on a été plusieurs à le faire, hein. C'est d'acheter ces espèces de bombes lacrymogènes qui tiennent dans une poche, et je faisais plus une visite sans cette bombe dans ma poche. La reprise des visites après cette affaire a été très compliquée.
Et dans cette affaire, Sophie Narme, c'est la brigade criminelle, la CRIM, qui est chargée de l'enquête.
Oui, et l'un des policiers qui est alors envoyé sur place a accepté de nous parler, à condition de rester dans l'ombre. Nous avons donc fait lire ses propos.
Je me souviens d'un corps sans vie au milieu d'une pièce vide. On a tout de suite déclenché le rouleau compresseur de la crime, avec enquête de voisinage, perquisition, étude des mouvements bancaires, des appels téléphoniques. Le patron de Sophie Narme a été un temps soupçonné parce qu'il avait découvert le corps, mais il ne nous avait pas appelés tout de suite. C'était une fausse piste. Dans cette affaire, on a vraiment joué de malchance.
Et pourquoi ce policier parle de malchance ?
À cause de l'ADN, parce que quand le corps de Sophie Narme est autopsié, juste après sa mort, du sperme est prélevé. Et la conclusion de l'expert, c'est qu'il y a eu un rapport sexuel récent. Sauf que ce prélèvement, il va disparaître.
Comment ça ?
Quand un autre expert se penche sur les échantillons, quelques jours plus tard, cette fois, les spermatozoïdes n'apparaissent plus. Et c'est notamment à cause de ça que l'avocate de la famille Narme, Florence Rowe, a fait condamner l'État pour dysfonctionnement en 2010.
Est-ce que ça a été mal étiqueté ? Est-ce que les prélèvements ont été intervertis ? Je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer à ce moment-là. Je rappelle qu'on est en 91. Donc quelque part, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi, qui a fait que finalement, la preuve sur ce crime a été perdue.
Et ça, c'est vraiment un regret pour les enquêteurs de l'époque. Certains décrivent d'ailleurs encore aujourd'hui un sentiment de colère et d'abattement.
Et Julie, vous avez pu rencontrer l'un des experts qui a travaillé sur ce dossier.
Oui, c'est Olivier Pascal, expert en empreintes génétiques, une référence dans ce domaine. Et il rappelle qu'au début des années 90, on en est encore au balbutiement de l'analyse ADN.
Voilà, Sophie Narme.
C'est Sophie Narme.
Vous avez gardé ça ?
Oui, parce que comme on travaille toujours dessus, on a le devoir de retourner sur nos anciens dossiers pour pouvoir faire d'éventuelles comparaisons, pour satisfaire les demandes des magistrats. Il faut s'imaginer qu'en France, les premières empreintes génétiques ont été faites en 89 et les techniques que nous utilisions majoritairement étaient des techniques pour lesquelles il nous fallait énormément de sang ou de sperme pour pouvoir déterminer une empreinte génétique. À l'époque, pour le sperme, on pouvait établir le groupage sanguin, mais on n'arrivait pas à faire le groupage sur toutes les traces de sperme. Et puis surtout, lorsque vous avez un groupe O ou un groupe A, ils sont représentés à 40% dans la population générale chacun, donc ça ne vous apporte pas beaucoup d'informations, ça vous apporte une orientation, mais on ne pouvait pas aller tellement plus loin. Alors on pouvait faire les groupes, les sous-groupes, etc., mais ça n'avait pas la puissance qu'a l'ADN aujourd'hui.
Aujourd'hui, avec du sperme, on peut identifier un individu avec certitude, dit-il.
Et on mesure ce qu'il aurait été possible de faire dans l'affaire Sophie Narme si l'échantillon de sperme n'avait pas disparu. Mais même s'il manque cette preuve ADN, les policiers ont exploré de nombreuses pistes.
Par exemple, le tueur, l'homme qui donne rendez-vous à Sophie Narme dans l'appartement, a utilisé un faux nom, Dubost. C'est écrit dans l'agenda de la jeune femme.
Et Julie, vous avez retrouvé l'un des suspects de l'époque qui parle pour la première fois.
Oui, il s'appelle Jean-Marc Dubost, à l'époque il a 45 ans, et il se souvient du jour où la police l'a appelé pour le convoquer au 36 quai des Orfèvres, à Paris.
L'inspecteur me dit « Vous viendrez bien, parce que sinon je viendrai vous chercher. » Alors évidemment, pas question de voir arriver et débarquer des flics au bureau. Donc j'étais au rendez-vous, il y avait trois inspecteurs qui m'attendaient. Et là, il me demande quel était mon alibi le jour apparemment de l'assassinat de la jeune fille. Ensuite, il m'a montré des photos sur un catalogue noir et blanc. Il tourne les pages. C'était vraiment des photos d'un assassinat, enfin d'une fille qui était par terre. Au bout de la dixième, j'avais beaucoup comme ça, parce que ça va. Hein. Je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec cette affaire-là? Il me dit, il se trouve que vous habitez à Bailly, qui se trouve à 12 km de la maison des parents de la jeune fille qui a été tuée. Et là, il me dit, le père de la jeune fille est un industriel du bâtiment public et achète des produits chez Dow Chemical, ma société. Bon, ça faisait beaucoup d'indices qui pouvaient éventuellement laisser présager que j'aurais pu être le commanditaire du meurtre ou le meurtrier lui-même.
Ce qui n'est effectivement pas très rassurant pour lui, sauf qu'il a un alibi très solide.
Oui, il était en déplacement professionnel lors de la mort de Sophie Narme, loin de Paris, et il a des éléments pour le prouver. Les policiers le laissent donc partir.
Et il y a eu d'autres suspects dans cette affaire.
Le patron de l'agence immobilière, on l'a dit, finalement mis hors de cause, mais plusieurs tueurs en série apparaissent aussi dans ce dossier. Patrice Allègre, et surtout celui qu'on surnomme Le Grêlé, un ancien gendarme devenu policier, François Vérove, qui tué et violé dans ces années-là. La journaliste Patricia Touranchot a écrit un livre sur lui, dans lequel elle évoque d'ailleurs le meurtre de Sophie Narme.
Plusieurs points communs entre le meurtre de Sophie Narme et les crimes du Grêlé, notamment avec Cécile Bloch, qui était la première victime du Grêlé en mai 1986, une petite fille de 11 ans, qui avait été tuée dans une cave au 116 rue Petit dans le 19e arrondissement de Paris, c'est-à-dire la rue parallèle à la rue Manin dans le 19e, où Sophie Narme avait été assassinée. Les victimes avaient été toutes les deux agressées face contre terre, le bas du corps dénudé, présentait une plaie et dans les deux cas, le violeur meurtrier avait laissé du sperme. Ce qui vraiment divergeait, c'était l'utilisation de l'éther par l'agresseur de Sophie Narme.
Oui, l'éther, on le rappelle, on le retrouve dans la tentative de viol contre Marion, une autre femme agent immobilier, en 99.
Oui, et l'éther, c'est quand même très particulier. Écoutez, Richard Marlet, chef de l'identité judiciaire de la CRIM entre 95 et 2005, qui enseigne la police technique et scientifique depuis plus de 20 ans.
C'est ça que j'appellerais une signature, en fait, parce qu'il y a une espèce de perversion qui consiste à prendre un plaisir alors que la femme est complètement soumise et endormie, inconsciente. La plupart des violeurs et la plupart des violeurs assassins trouvent un plaisir à ce que la victime soit vivante, en tous les cas consciente.
Cet ancien policier parle de signature quand on utilise de l'éther, c'est une forme de soumission chimique. Et cette soumission chimique, elle était d'ailleurs au cœur du procès des viols de Mazan.
Oui, Dominique Pellicot, il a drogué sa femme Gisèle, mais avec des médicaments. Pour Marion, il y avait de l'éther et une preuve ADN. Pour Sophie Narm, il n'y a pas d'ADN, mais il y a de l'éther. Le produit a été retrouvé dans ses poumons à l'autopsie. Et cet éther, c'est tellement singulier que Dominique Pellicot est longuement interrogé là-dessus par un policier lors de sa garde à vue en 2022.
Monsieur Pellicot, avez-vous tout simplement entendu les médias évoquer des affaires criminelles ou délictuelles dans lesquelles les victimes auraient eu des pertes de connaissances liées à l'usage de l'éther ?
Non.
Je suis d'accord avec votre réponse, ce ne sont pas des affaires courantes. Elles sont même plutôt rares, voire très rares. Qu'en pensez-vous ?
Je n'en pense rien. Je sais qu'à une époque, on endormait les gosses avec l'éther. Mon père utilisait l'éther pour endormir les chiots avant de les tuer.
Et une précision, lors de l'enquête, la fille de Dominique Pellicot, Caroline, a expliqué de son côté qu'elle avait vu son père utiliser aussi de l'éther pour tuer des chiots et qu'il y avait un flacon à la maison.
Et on le précise, Julie, dans toutes ces affaires qui ne sont pas encore jugées, Dominique Pellicot est présumé innocent.
Oui, si pour son avocate Béatrice Zavaro, il n'y a pas de doute, Dominique Pellicot est un violeur. Il a d'ailleurs déjà été condamné pour ça. Le meurtre, c'est autre chose.
Il m'a dit, mais je vous jure que je n'ai rien fait et je ne connais pas cette jeune femme. Et j'ai tendance à le croire. C'est peut-être un peu naïf, vous allez penser que je vis un peu dans le monde des bisounours, mais je commence à connaître cet homme et je commence à savoir quand il dit vrai et il dit faux. Et pour le coup, c'est très net. Des agents immobiliers qui ont été tués par des hommes qui n'étaient pas Dominique Pellicot, il y en a. Des faits divers à l'éther dont les responsables n'étaient pas Dominique Pellicot, il y en a. Pardon d'être un peu brutal dans mon propos, mais je pense qu'il y a une volonté judiciaire de vouloir résoudre ce dossier Narm pour se donner bonne conscience.
Et l'avocate de Dominique Pellicot pointe un dossier fragile, sans preuve irréfutable, et donc pour elle, le doute doit profiter à son client.
Et Julie, vous nous avez révélé cette semaine que les policiers travaillent aussi sur une autre affaire.
Oui, l'agression d'une femme, elle aussi agent immobilier, à Chelles, en Seine-et-Marne, c'était en 2004. Elle a à l'époque 60 ans, elle est dans son agence quand un homme vient se renseigner pour un appartement. Au bout d'un moment, il l'agresse avec un couteau et il lui met un tissu devant la bouche, il lui demande de respirer, un passant va le mettre en fuite.
Et pourquoi les enquêteurs s'intéressent à ce cas précis ?
Parce qu'un lien a été fait en 2005, le SALVAC, un logiciel de police, a pointé des similitudes importantes entre cette agression à Chelles et la tentative de viol de Marion. Alors je précise quand même qu'il faut rester prudent, cette femme agressée en 2004 a fait à l'époque une description physique qui ne correspond pas vraiment à Dominique Pellicot. Un nouveau rapport policier en 2023 a d'ailleurs été beaucoup moins affirmatif, même si le nom de cette femme apparaît toujours. En tout cas, la brigade criminelle de Paris travaille sur cette agression vieille de plus de 20 ans.
Alors on verra ce que donneront ces vérifications, mais ce n'est pas tout, Julien.
Oui, il y a aussi cette agression d'une enfant de 12 ans en 1995 à Paris, révélée par M6. Elle était seule dans son appartement quand un homme qui se présente alors comme un électricien l'agresse et tente de l'endormir avec de l'éther. Cet enfant, devenu adulte aujourd'hui, dit avoir reconnu Dominique Pellicot à la télévision.
Et là encore, c'est une piste en cours de vérification.
Oui, et je précise que Dominique Pellicot, il a été électricien, il a dit à la police avoir un CAP d'électricien et avoir exercé entre 73 et 84 avant donc l'agression rapportée par cette femme.
Et Dominique Pellicot a donc été réentendu cette semaine par la juge Nathalie Turquet à Nanterre.
Oui, il a été entendu pendant près de 5 heures et il nie toujours le meurtre et la tentative de viol. Il n'a pas été interrogé sur le reste, mais selon nos informations, il dément là encore toute implication.
Alors on va bientôt conclure, Julie. Et Gisèle Pellicot, comment elle réagit face aux nouvelles accusations qui visent son ex-mari ?
Eh bien, j'ai posé la question à Maître Antoine Camus, l'un de ses avocats.
Gisèle Pellicot, évidemment, ignore tout de ces dossiers qu'elle découvre un peu comme tout un chacun en lisant la presse. Donc aujourd'hui, elle s'attend évidemment à tout, elle n'exclut rien. Et effectivement, elle vit dans l'angoisse, bien sûr. En fait, ce qu'elle redoute, c'est d'apprendre demain qu'elle ne serait elle-même que la face émergée d'un iceberg beaucoup plus profond.
Alors, est-ce qu'il y aura un procès, finalement, sur les affaires de Marion et de Sophie Narm ? C'est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, et c'est très important, les deux dossiers, ils sont liés. La tentative de viol où il y a la preuve ADN, elle est prescrite. Cette affaire ne peut plus être jugée toute seule. Elle ne tient que parce qu'elle est liée au meurtre de Sophie Narm, un dossier dans lequel il n'y a pas de preuves irréfutables.
Merci Julie Pietri pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site ou sur l'appli Radio France avec les dessins de Nicolas De Witt de la cellule Investigation. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission était préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique, Clément Vuillet. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.